VOA Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Bonjour à toutes et à tous, le monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du vendredi 10 février 2023, en direct de Washington, Idrissa Sédoulia pour commencer les titres. Rencontre des ministres des Affaires étrangères du Burkina, du Mali et de la Guinée, mutualisation des efforts et souhait de la levée de leur suspension de la CEDEAO et de l'UA. Au Togo, indignation après la révélation d'irrégularités dans la gestion du fonds COVID-19. Le président Félix Tshisekedi dénonce ce qu'il a appelé une guerre barbare imposée par le Rwanda dans l'est de la RDC dans des entretiens avec son homologue comorien à Moroni. Le bilan des tremblements de terre en Turquie et en Syrie voisine dépasse les 21 000 morts. La Chambre américaine des représentants unanime pour dénoncer le survol par la Chine d'un ballon au-dessus des États-Unis. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. Réunion hier à Ouagadougou des ministres des Affaires étrangères du Burkina Faso, du Mali et de la Guinée. Les trois pays ont résolu dans leur communiqué final de faire face aux défis communs dans plusieurs domaines comme la sécurité, la coopération, l'économie. Ils ont aussi souhaité la levée de leur suspension de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest et de l'Union africaine. De Ouagadougou, notre correspondant Lamine Traoré.
La rencontre de ces trois ministres a duré plusieurs heures et selon le communiqué final, les trois pays ont relevé la nécessité de conjuguer leurs efforts et ceux des pays de la sous-région et de la région pour faire face à l'insécurité dans la bande sahélo-saharienne. En ce qui concerne la coopération, le Burkina, le Mali et la Guinée ont réaffirmé leur engagement à examiner tout partenariat qui respecte leur souveraineté et répond aux besoins de leur population. Les pays, indique le communiqué final, ont réitéré leur attachement au principe de non-ingérence dans les affaires intérieures des États. Concernant l'Union africaine et la CEDEAO, les trois pays ont déploré les sanctions imposées de façon, disent-ils, mécanique et qui ne tiennent pas compte des causes profondes et complexes des changements politiques. Les pays ont appelé à un appui technique, financier, concret et conséquent aux efforts de sécurisation et accompagner le processus de retour à un ordre constitutionnel normal. La facilitation de la fourniture en hydrocarbures, le développement du commerce, la construction du chemin de fer Conakry-Bamako-Ouagadougou et la construction des routes internationales entre les trois pays sont entre autres des décisions prises. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Des criminels ont tenté de faire sauter un pont dans une région du nord du Ghana en proie à de fortes tensions communautaires, a affirmé le gouvernement qui craint qu'une escalade des violences ne profite au groupes djihadistes présents au Burkina Faso voisin. Plus de 10 personnes sont mortes ces 5 derniers jours dans la région de Boku, proche de la frontière où des violences éclatent souvent entre les ethnies Kousassi et Mamproussi, selon les autorités locales. En Côte d'Ivoire, deux hommes ont été condamnés jeudi à 5 ans de prison pour des faits de charlatanisme et troubles à l'ordre public dans un village du centre du pays où au moins 16 personnes, dont de nombreux enfants, sont mortes d'un mal mystérieux depuis décembre. Au terme d'une audience de 2 heures devant le tribunal de Boaké, les deux hommes qui ont comparu sans avocat ont été reconnus coupables d'avoir installé un fétiche, un objet auquel est attribué un pouvoir mystique, qui aurait été à l'origine des morts dans le village de Kpokankro. Lundi, le ministère de la Santé avait estimé que 16 personnes étaient mortes dans ce village en raison d'une bactérie présente sur le fétiche. Le fétiche ne peut pas tuer, se sont défendus les deux prévenus. Au Togo, un rapport du contrôleur et vérificateur général montre des irrégularités dans l'utilisation des fonds COVID-19. Le document de 86 pages a fait les gros titres cette semaine et plusieurs personnalités de l'opposition réclament justice. Rosine Mounezero.
Avec le soutien de l'Union européenne, du FMI et de la Banque mondiale, plus de 108 milliards de francs CFA ont été dépensés pour la seule année 2020, selon ce rapport d'audit des fonds Covid. Certains paiements ont été effectués pour des dépenses qui n'avaient aucun lien direct avec l'épidémie. L'achat de 31 500 tonnes de riz par le ministère du Commerce, sans aucune trace de commande, a été l'une des découvertes qui a suscité le plus l'indignation. Le gouvernement n'a pas encore commenté le rapport, mais les opposants tirent à boulet rouge. Lorsque le Covid et l'inflation ont obligé les Togolais à se serrer la ceinture, il est intolérable que d'autres en profitent pour s'enrichir, s'indigne Jerry Tama, membre du parti d'opposition NET. On ne peut pas continuer à appauvrir les Togolais en dépensant l'argent des contribuables, a renchéri l'opposant Nathaniel Olympio du parti des Togolais. Abbas Kaboua, du parti centriste MRC, ajoute que les 31 500 tonnes de riz ont été commandées par un ministre qui devra répondre devant l'Assemblée nationale à la reprise des travaux le mois prochain.
Le président de la RDC, Félix Tshisekedi, a dénoncé jeudi auprès de son homologue des Comores une guerre barbare imposée, a-t-il dit, par le Rwanda dans l'est de son pays. Il l'a dit lors d'une visite à Moroni à l'issue de son entretien avec M. Azali Assoumani, candidat à la présidence de l'Union africaine qui doit être décidée ce mois-ci. Partout où je suis passé, j'ai parlé de mon pays et de cette guerre barbare que nous impose le Rwanda. Mon espoir est que mon aîné puisse y ramener la paix, a déclaré M. Tshisekedi. L'Est de la République démocratique du Congo est en proie depuis près de 30 ans aux violences de groupes armés, pour beaucoup héritées de guerres qui ont ensanglanté la région dans le sillage du génocide de Rwandais de 1994. Les tensions sont vives entre Kinshasa et Kigali depuis la résurgence fin 2021 de l'ancienne rébellion Tutsi du M23. La RDC accuse le Rwanda de soutenir cette rébellion. Kigali dément.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le bilan du violent séisme qui a frappé la Turquie et la Syrie n'a cessé de s'alourdir, dépassant les 21 000 morts. Les premières aides de l'ONU ont atteint les zones tenues par les rebelles syriens et l'espoir de trouver d'autres survivants s'amenuise. Le point avec Claire Morin-Gibourg.
Le froid glacial a entravé les 4 jours de recherche dans des milliers de bâtiments effondrés. De nombreuses victimes du séisme sont toujours sans abri et sans eau potable. Des proches ont dû passer en revue des sacs mortuaires disposés sur le parking d'un hôpital d'Antakya, dans le sud de la Turquie, à la recherche de parents disparus. Les chances de retrouver des survivants ont diminué plus de 72 heures après la catastrophe. Dans la ville turque de Gaziantep, les températures ont chuté hier matin à moins 5 degrés Celsius. Des milliers de familles ont passé la nuit dans des voitures et des tentes de fortune. Les gymnases, les mosquées, les écoles et certains magasins ont ouvert la nuit. Mais les lits sont toujours rares. Un convoi d'aide a atteint hier le nord-ouest de la Syrie, tenu par les rebelles. C'est le premier convoi de ce type depuis le séisme, a déclaré un responsable du poste frontière de Bab al-Hawa. Il y a eu plus de 17 400 morts en Turquie et plus de 3 300 en Syrie, ce qui porte le total à plus de 20 700 décès. Et ce bilan risque d'être révisé à la hausse.
Les États-Unis, donc, disons que le bilan a dépassé maintenant les 21 000 morts. Les États-Unis vont verser 85 millions de dollars d'aide à la Turquie et à la Syrie, a annoncé l'USAID, l'Agence américaine de développement. Ce financement sera versé à des partenaires sur le terrain pour fournir l'aide urgente nécessaire à des millions de personnes, notamment en matière de nourriture et de soins de santé. L'aide devra aussi permettre d'aider à l'approvisionnement en eau potable et empêcher la propagation de maladies, a affirmé l'agence. Les élus de la Chambre américaine des représentants ont dénoncé d'une seule voix hier le survol par la Chine d'un ballon au-dessus des États-Unis, ballon soupçonné d'être équipé d'outils d'espionnage, Jacques Aristide.
La résolution votée au Congrès condamne l'utilisation par le Parti communiste chinois d'un ballon espion, estimant qu'il s'agit d'une violation éhontée de la souveraineté des États-Unis, une façon pour le Congrès américain de faire bloc face à Pékin après de nombreuses querelles partisanes sur l'affaire du ballon. Les républicains ont vivement critiqué la réplique américaine, accusant l'administration Biden de ne pas avoir été assez ferme et réactive. Le camp du président a rétorqué en expliquant qu'agir plus tôt aurait posé un risque pour la population, la trajectoire des débris ne pouvant pas être contrôlée. Le survol du territoire américain par cet engin a captivé le pays pendant plusieurs jours, avant sa destruction samedi dernier au-dessus des côtes de Caroline du Sud. Le dossier a galvanisé l'opposition américaine au régime communiste du président Xi Jinping, a affirmé l'élu Michael McCaul, auteur de la résolution. Pékin assure que l'appareil est un aéronef civil utilisé à des fins de recherche, principalement météorologiques.
La Minute Éco, Nathalie Barge.
Lors de son discours annuel de l'état de la nation, le président sud-africain Cyril Ramaphosa a déclaré l'état de catastrophe nationale hier pour tenter d'endiguer la crise de l'électricité. Depuis des mois, le pays manque d'électricité et la rationne en imposant des coupures programmées. L'état de catastrophe permet de débloquer des fonds exceptionnels. Un plan d'investissement de 98 milliards de dollars a été approuvé à la COP27 pour soutenir la transition énergétique de l'Afrique du Sud. Dans un communiqué, le département d'État américain indique que les gouvernements du partenariat pour la sécurité des minéraux se sont engagés auprès des pays africains en annonçant leur soutien aux principes en faveur de normes environnementales, sociales et de gouvernance élevées. Le PSM soutiendra les projets socialement responsables qui procurent des avantages économiques aux travailleurs et aux communautés locales. Flutterwave, la principale société de technologie de paiement d'Afrique, a annoncé avoir reçu ses licences de prestataire de services et facilitateur de paiement en Égypte. Cela lui permettra de déployer sa gamme de produits Flutterwave for Business, y compris les magasins. Avec ses licences, l'entreprise devient l'un des rares prestataires de services de paiement en Égypte, disposant de capacités de règlement locaux et internationaux.
Merci Nathalie. Les sports à présent avec Yacouba Ouédraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Début ce vendredi de la phase de groupe de la Ligue des Champions CAF.
Oui, deux matchs au programme dans le groupe D. Les Égyptiens du Zamalek font face aux Algériens du CRB Louisdad. Coup d'envoi 15h temps universel. Le deuxième match de ce jour met aux prises les Marocains du Raja Casablanca et les Sud-Africains de Vipers dans le groupe C. Demain samedi, les Guinéens de Oruya reçoivent les Tanzaniens de Simba SC au stade Lassana Conté. À suivre aussi Espérance de Tunis, Almerek du Soudan ou encore Petro Luanda JS Kabylie d'Algérie. Les Sud-Africains du Mamelodi Sundowns font face aux Soudanais d'Al Hilal.
Demain samedi se joue la finale du Mondial des clubs à Rabat.
Elle va opposer le Real Madrid à Al-Hilal à 19h temps universel à Rabat. Les Espagnols visent une cinquième couronne mondiale face aux Saoudiens. Surprenant tombeur des Brésiliens du Flamengo mardi en demi-finale, le Real voudra effacer son début d'année 2023 mitigé avec une défaite en Supercoupe d'Espagne mi-janvier et plusieurs contre-performances en championnat. Deuxième de Liga, le Real a déjà 8 longueurs de retard sur le leader, le FC Barcelone. Bien avant cette finale, à 15h30 temps universel, les Égyptiens d'Al Ahly défieront les Brésiliens de Flamengo dans le match pour la troisième place.
On connaît les coachs nommés pour le prix FIFA du meilleur entraîneur.
Le sélectionneur des champions du monde argentin, Lionel Scaloni, l'Italien Carlo Ancelotti, vainqueur de la Ligue des champions à la tête du Real Madrid, et l'Espagnol Pep Guardiola, coach de Manchester City, sont les trois nommés pour le prix FIFA du meilleur entraîneur. Les nommés pour les prix des meilleurs joueurs et joueuses ainsi que pour le prix Puskas du plus beau but vont être connus aujourd'hui. Les lauréats seront déterminés par un jury international composé des sélectionneurs actuels de toutes les équipes nationales féminines et masculines, de leur capitaine et d'un journaliste spécialisé de chaque pays représenté par une équipe nationale. Le grand public peut également voter sur le site fifa.com. La cérémonie de remise des prix de la FIFA aura lieu le 27 février à Paris.
Merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sidoulia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Nigeria, à moins de 3 semaines des élections générales, les files d'attente continuent de s'allonger devant les distributeurs en manque de billets de banque et les stations essence dépourvues de carburant dans le plus grand pays producteur de pétrole du continent. Plusieurs émeutes ont éclaté dans certains États. Le point de la situation avec notre correspondant à Abuja, Gilbert Tamba.
Devant les banques, des files interminables sont visibles et des nouveaux billets de banque sont introuvables. Les Nigériens peinent à se procurer ces nouveaux billets de 200, 500 et 1000 naira qui doivent remplacer les anciens demain vendredi 10 février, délai de rigueur accordé par la Banque centrale du Nigeria. Réaction de Doris Labeb et de Queen, elles viennent tous les matins à leur banque pour tenter en vain de retirer de l'argent.
Depuis 2 semaines maintenant, je n'ai pas accès à mon argent dans mon compte. La situation est difficile pour moi, même pour aller faire des achats. La carte de débit n'est pas acceptée dans toutes les boutiques. C'est une terrible expérience.
Je viens ici depuis lundi juste pour faire un retrait d'argent. Vous voyez que c'est difficile d'avoir de l'argent, mais vous n'avez pas accès. Nous ne savons pas ce qui se passe et on ne sait pas où on va dans ce pays. Ils doivent aider les populations. Il y a de l'argent, mais ils vendent.
L'impact de la politique monétaire et le chaos qui l'accompagne ont frustré de nombreux Nigériens opérant dans l'économie informelle dépendante de l'argent liquide pour faire des affaires, effectuer des paiements et profiter de certains services. Kabiru Abdoulaye est un commerçant résident à Nyanya, à la banlieue d'Abuja.
Si nous devons adopter cette politique sans cash, notre système de transactions bancaires doit être amélioré. Cela nous permettra d'utiliser nos téléphones ou bien n'importe quel autre moyen pour transférer de l'argent et faire des affaires. Moi, je suis un commerçant, donc cela va m'affecter pendant longtemps et pour beaucoup de choses.
Le Fonds monétaire international a demandé à la Banque centrale du Nigeria d'envisager de prolonger la date limite du 10 février pour l'échange des anciennes coupures, citant des difficultés causées par les perturbations des échanges et des paiements dus à la pénurie des nouveaux billets. Beaucoup de Nigériens pensent que c'est un acte délibéré du pouvoir en place d'avoir initié une politique impopulaire peu avant une élection présidentielle cruciale le 25 février. D'autres soutiennent le geste de la Banque centrale pour une seule raison. C'est le cas du directeur des programmes du Centre pour la démocratie et le développement, Austin Agbey.
Beaucoup de mesures ont été prises, mais surtout celles de la Banque centrale. Et en écoutant le président nigérian, Muhammadu Buhari, il a promis aux Nigérians qu'il ne reviendra pas sur la décision de changer les nouvelles coupures du Naira. Selon le président, et je le cite, il ne veut pas que quelqu'un vienne avec de l'argent pour acheter de votes. Que ces élections doivent être crédibles et les Nigérians doivent voter pour le candidat de leur choix et non pour l'argent.
Le 26 octobre 2022, la Banque centrale du Nigeria a annoncé l'introduction des nouveaux billets de 200, 500 et 1000 naira dans le système financier, affirmant que son action n'a rien à voir avec la politique. Au Nigeria, l'achat des votes est souvent une décision individuelle et indépendante, devenue une pratique normalisée. Le tout sur fond d'une pénurie de carburant sans fin ces derniers jours. Le syndicat national des distributeurs du pétrole a suspendu ses activités suite à la situation critique qui affecte l'approvisionnement, la vente des produits à perte et la décision des autorités d'imposer la vente des produits à prix perdu. Des stations de service dans la capitale fédérale sont fermées et il n'y a pas de vente de carburant au grand désespoir des conducteurs. Gilbert Tamba pour VOA Afrique, Abuja.
Côte d'Ivoire, remise du prix Félix Houphouët-Boigny UNESCO pour la recherche de la paix, édition 2022 à Angela Merkel, l'ex-chancelière allemande. C'est en reconnaissance de son action pour l'accueil des réfugiés en 2015. La cérémonie s'est déroulée à Yamoussoukro en présence de plusieurs personnalités, dont des chefs d'État et 2 anciens présidents ivoiriens. Le point avec notre correspondante à Abidjan, Delphine Boris.
Le jury a été touché par la décision prise en 2015 par Angela Merkel, à l'époque chancelière allemande, d'avoir accueilli près de 1,2 million de réfugiés venus de la Syrie, d'Irak, d'Afghanistan et d'Érythrée. Pour le président ivoirien Alassane Ouattara, c'est une satisfaction particulière pour la Côte d'Ivoire.
Vous avez donné une grande leçon d'humanisme. Votre décision en faveur des réfugiés en 2015 rappelle les valeurs et les idéaux prônés par le président Félix Houphouët-Boigny.
C'est une leçon qu'elle laisse à l'histoire, a déclaré le président du jury, Denis Mukwege, prix qui comprend un chèque de 122 000 euros, une médaille en or et un diplôme. La réaction de Mme Merkel.
Je suis fort reconnaissante au jury du prix Félix Houphouët-Boigny UNESCO. J'ai décidé de faire en sorte que l'accent soit mis dans le cadre du décernement de ce prix à surmonter la guerre, à faire en sorte d'identifier les personnes qui sont déracinées et de venir en aide à ces personnes déplacées et déracinées.
L'ex-chancelière n'a pas démérité car elle a aussitôt fait don de 150 000 dollars de son prix à l'association ivoirienne d'aide à l'enfance en difficulté. Pour la directrice générale de l'UNESCO, Audrey Azoulay, le prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix épouse les grandes causes.
En décernant ce prix 2022, le jury a voulu distinguer la décision courageuse prise en 2015. Vous avez été, madame, à ce moment-là, la vision du courage en politique.
L'ancien président ivoirien Henri Konan Bédié, président du PDCI, protecteur du prix, a félicité le jury pour ce choix judicieux.
Madame la chancelière, en vous accueillant ici à Yamoussoukro, nous accueillons une personnalité d'un courage et d'un moral politique exceptionnel.
Macky Sall, le président sénégalais, président en exercice de l'Union africaine, est venu représenter l'ex-président Abdou Diouf, parrain de ce prix.
Madame la chancelière Angela Merkel, au nom du parrain, je dis que vous méritez ce prix. Poser un tel acte, c'est rappeler au monde que le droit d'asile est d'essence universelle. Félicitations vivement et te dire donc chan.
Et le jury a aussi décerné une mention d'honneur à Julienne Moussengue pour son engagement en faveur des droits des femmes victimes de violences sexuelles en République démocratique du Congo. Delphine Bobigis, Abidjan, VOA Afrique.
Abidjan, Côte d'Ivoire, 99 FM, VOA Afrique, 24h sur 24.
Après une longue agonie, l'Afrique de l'Ouest francophone voit sa production audiovisuelle exploser, portée par le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Depuis quelques années, l'industrie cinématographique sénégalaise en particulier connaît une évolution notoire. Entre les séries qui s'exportent et les producteurs extérieurs qui s'intéressent au savoir-faire local, le Sénégal commence à exposer son potentiel. Récit de Nani Talani.
Au bout d'une route, au milieu des baobabs, une école dans le centre du Sénégal. Silence, action. La caméra pivote lentement, se fixe sur l'acteur principal. L'équipe de tournage retient son souffle. Coupé ! Assistants, techniciens, acteurs, tout le monde souffle. C'est le dernier jour du tournage. La fatigue se lit sur les visages et la pause déjeuner est bienvenue. La sortie est prévue dans quelques mois sur Netflix. Dans une salle exiguë d'une clinique de Dakar, un autre groupe, bien plus petit mais motivé, s'active pour boucler le prochain épisode de la série Karma diffusée localement sur la chaîne TFM. Tout cela montre le potentiel cinématographique dont regorge le pays de la Teranga. Rosa Manuela Evora est actrice sénégalaise.
Je trouve que le Sénégal a un gros potentiel cinématographique, que ce soit au niveau des acteurs, au niveau des productions, au niveau du matériel. Je sais qu'on a un potentiel et qu'on peut aller loin. Après, ce qui est dommage, c'est qu'on s'arrête aux séries. Alors qu'en ce moment, il faut vraiment qu'on essaie de miser sur les films. Moi, à mon avis, à mon niveau, je trouve que les films permettent de plus propulser, en fait.
Au-delà des séries, l'Afrique francophone, contrairement au Nigeria, première puissance cinématographique continentale, produit très peu de téléfilms et assez peu de longs métrages. Mais la production de comédies populaires pourrait s'accélérer avec la réapparition d'un réseau de salles de cinéma comme à Dakar et Abidjan. Kenza Madeira est étudiante dans une école de cinéma à Dakar.
Il y a effectivement une effervescence. On n'a jamais eu autant de séries. Mais oui, c'est en train d'évoluer. Franchement, c'est en train d'évoluer. Je pense que d'ici quelques temps, ça ira encore plus loin. Parce que tout le monde commence à se centrer un peu, à se retourner vers l'Afrique et plus particulièrement le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Mais voilà, je pense qu'il y a beaucoup d'opportunités qui viendront. Et qu'il y aura à faire.
Les opportunités, il y en aura. Mais les artistes sénégalais, comme la plupart des artistes africains d'ailleurs, se plaignent du fait de ne pas vivre de leur art. C'est ce qu'affirme Manuela Evora, actrice sénégalaise.
Non, je ne pense pas que les acteurs puissent vivre de leur art, en tout cas ici au Sénégal. Après moi, je parle de ce que moi j'ai vu, de ce que je connais en fait. Peut-être que pour d'autres c'est différent, mais pour certains, s'ils n'ont pas quelque chose à côté, s'ils n'ont pas leur petit business à côté pour arrondir les fins de mois, ils ne s'en sortent pas.
Le cinéma, autrefois très populaire, a connu un déclin spectaculaire dans les années 2000, marqué par la disparition de presque toutes les salles d'Afrique francophone. Mais une nouvelle génération émerge aujourd'hui. L'école Kotradjmé a ouvert ses portes à Dakar en 2022 pour former au métier de scénariste et réalisateur et répondre à la demande du secteur. Les élèves de la première promotion terminent leur cursus confiants dans l'avenir.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24h sur 24.
Ici aux États-Unis, les législateurs républicains et démocrates débattent de la gestion par l'administration Biden d'un ballon espion chinois présumé qui a traversé le pays. Des Américains continuent de commenter l'incident. Les dernières réactions avec Elizabeth Lee, un reportage réalisé avec la contribution du service mandarin de la VOA. Le récit est de Jacques Aristide.
Pour Washington, ce ballon espion chinois a violé l'espace aérien et la souveraineté des États-Unis. Pékin, pour sa part, affirme qu'il s'agissait d'un dirigeable civil dédié aux recherches météorologiques et qui s'était égaré. L'armée américaine l'a abattu samedi dernier. Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain.
C'est à la fois inacceptable et irresponsable.
Mao Ning, une porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères.
C'est un comportement inacceptable et irresponsable.
Dans les rues de Washington DC, des Américains font part de leur point de vue sur cette polémique.
It's really hard to know which one is right because...
C'est vraiment difficile de savoir qui a raison, parce que pour moi c'est comme être une mère qui va dans une pièce et vous voyez vos deux enfants se disputer et vous ne savez pas qui dit la vérité. Vous ne savez pas qui ment, vous êtes la mère et vous ne pouvez pas être impartial, vous ne pouvez pas être injuste, donc vous leur dites « Ok, allez dans votre chambre parce que je n'ai absolument aucune idée de qui de vous deux a raison. »
Certains, comme Fabricio Rodriguez, attendent plus d'informations.
Je n'ai rien entendu qui puisse me convaincre d'une manière ou d'une autre. Je veux dire, c'est étrange que même un ballon de recherche soit là. Donc, je pense que c'est très suspect, mais je ne veux pas tirer de conclusion hâtive.
La Chine est d'avis qu'abattre le ballon était une action excessive. Mais James Kinney dit que l'ordre du président Joe Biden a été mesuré.
Ah oui, à mon avis, ce n'était pas une réaction excessive, parce que Biden a attendu que le ballon s'éloigne. S'il devait simplement l'abattre immédiatement, cela aurait été une réaction excessive, je pense.
S'il s'avère être un ballon espion, ce n'est pas grave, compte tenu de ce qu'il y a dans le ciel, d'après cette femme qui s'identifie comme Jennifer.
Il y a des satellites partout que les Chinois ont installés pour découvrir tout ce qu'ils ont probablement jamais voulu savoir sur quoi que ce soit en Amérique.
Christina, elle, croit que les États-Unis ont le droit de savoir ce que le ballon transportait et son objectif.
Sur le vol américain, si je trouve quelque chose dans mon jardin, oui, je vais voir ce que c'est. Si quelqu'un me dit non, c'est à moi, je me dis oui, mais c'est dans mon jardin. Pourquoi cela est-il dans mon jardin? C'est une caméra. Es-tu en train d'espionner? Qu'est-ce que c'est que ce truc?
Les enquêteurs américains vont examiner les débris du ballon pour en savoir davantage et les objectifs de Pékin.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Au micro, Idrissa Seludia, à la mise en onde, Michel Joseph, à la console, Kelvin Fowler. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée.